Bonjour, et d'abord permettez-nous, Vanessa Rovensky et moi, de vous souhaiter une bonne année, que dis-je, une très bonne année 2016 à vous et à vos proches.
Pierre-Édouard Deldic.
Nous nous retrouvons pour notre évocation de l'année 2015, c'est la seconde partie d'un numéro spécial d'une semaine d'actualité. Nous sommes en compagnie de notre ami Yann Mins du magazine Alternative Économique qui publie un hors-série intitulé « Quel monde en 2016 ?». Bonjour Yann, et d'abord bonne année à vous aussi.
Bonne année à vous et à tous les auditeurs de RFI.
Alors, « Quel monde en 2016 ?», c'est l'interrogation suprême. C'est le titre de ce supplément et c'est l'interrogation.
Oui, c'est l'interrogation. En même temps, le monde ne change pas tous les ans, donc il y a quand même des tendances lourdes qui se poursuivent. C'est ce qu'on a essayé de discerner ou de montrer dans ce numéro, en essayant aussi d'anticiper sur un certain nombre d'événements qui sont prévisibles, des élections notamment, des réunions internationales qui porteront sur des sujets qui sont déjà dans l'actualité mais qui le seront plus encore dans les mois qui viennent, avec malheureusement aussi des crises qui risquent de durer, celle du djihadisme, probablement celle des réfugiés aussi.
Oui, donc effectivement, ce terrorisme, c'est la question, on l'a déjà évoqué samedi dernier, on l'a déjà évoqué, le terrorisme et la lutte contre le terrorisme. L'année 2016, et là je me tourne vers vous précisément, vous l'auteur aussi, Yann Mins, ça sera aussi l'année de la sortie d'un livre qui s'intitule « 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman ».
Oui, c'est un livre...
Aux éditions Le Petit Matin.
Voilà, c'est un livre qui sortira le 7 janvier. L'ambition ou la prétention de ce petit livre, c'est d'essayer de rendre un peu plus clair un certain nombre de questions que des auditeurs, des citoyens se posent sur le monde musulman. Je dis volontairement le monde musulman et pas l'islam, pas la religion, parce que je crois qu'aucune religion n'existe que par l'interprétation que des hommes en font. Les interprétations sont extrêmement diverses. Elles sont diverses dans le monde catholique, dans le monde protestant, dans le monde juif, comme elles sont diverses dans le monde musulman. Évidemment, l'actualité des attentats en France, l'actualité du mouvement djihadiste, etc., font que les gens se posent des questions. Et par exemple, des questions simplement de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'un sunnite? Qu'est-ce que c'est qu'un chiite? Est-ce que ces gens-là s'en veulent pour des raisons religieuses? Est-ce qu'ils s'en veulent tout court d'ailleurs? Et un certain nombre d'autres sujets comme ça que j'ai essayé de traiter dans ce petit livre.
Et nous en reparlerons dans le courant du mois de janvier, dans une semaine d'actualité.
Avec grand plaisir.
Alors, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio RFI.fr.
Une année dans le monde.
Et nous allons commencer cette édition comme la semaine dernière avec une bonne nouvelle, c'est-à-dire le réchauffement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Vous l'avez reconnu sans doute à la musique. Écoutez ce reportage de Charlotte Stivenard en juillet.
Sur le perron de l'ambassade cubaine à Washington, la levée du drapeau tricolore est saluée par l'hymne national. Tandis que devant le bâtiment, quelques dizaines de manifestants sont venus apporter leur soutien au régime castriste. Bruno Rodriguez, le ministre cubain des Affaires étrangères, rend longuement hommage au peuple cubain et à l'histoire de la Révolution, puis il salue un début de réconciliation.
Je me réfère à l'histoire pour affirmer qu'aujourd'hui, l'opportunité s'offre à nous de travailler à établir des relations bilatérales nouvelles, différentes de tout ce que nous avons connu par le passé. Le gouvernement cubain y met son entière volonté.
Le défi est immense car Cuba et les États-Unis n'ont jamais eu de relations normales, constate le ministre, malgré un siècle et demi de liens intenses et enrichissants. Et pour atteindre ces relations normales, il faudra donc aller plus loin.
Seule la levée du blocus économique, commercial et financier qui a fait tant de mal à notre peuple, la restitution du territoire occupé de Guantanamo et le respect de la souveraineté de Cuba donneront sens à cet événement historique que nous vivons aujourd'hui.
Alors ça, c'est un événement sur lequel je voulais qu'on revienne. Il y a eu au mois d'août l'inauguration d'une nouvelle ambassade à La Havane en présence de John Kerry à la mi-août. C'est important ça quand même, mais c'est une bonne nouvelle.
Oui, bien sûr, c'est une normalisation entre deux pays voisins qui avaient des relations tendues depuis 1959 et des relations qui ont failli nous emmener par moments même au bord de la guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque. Donc effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, ça ne change pas le fait que les régimes des deux côtés sont extrêmement différents, que le régime cubain et la société cubaine sont en décalage l'un avec l'autre. On sent des aspirations de liberté, d'émancipation, d'initiative dans la société cubaine qui sont encore très entravées par le régime, qui a du mal à s'ouvrir parce qu'il sait que s'il s'ouvre, il risque de tomber. Alors effectivement, il y a des acquis du régime cubain, indubitablement Le pays, par exemple, pour donner qu'une chose anecdotique, est beaucoup mieux préparé au cataclysme, au raz-de-marée, à tout ce genre d'événements que Haïti, qui est juste à côté, où l'État est totalement dysfonctionnel. Le système de santé est meilleur, l'éducation est meilleure à Cuba, mais c'est pas une raison pour avoir un régime dictatorial depuis 1959. Ça ne me paraît pas une raison suffisante, en tout cas.
Alors, je salue quelques auditeurs. Je vais saluer quelques auditeurs qui nous ont écrit tout au long de cette émission, comme je l'ai fait samedi dernier. Et je salue tout de suite Bakary, qui nous a écrit de Bamako et qui souhaite plein de bonheur au nouveau-né de son frère à Ouagadougou. On va lui souhaiter aussi une bonne année.
Très belle année, surtout un nouveau-né.
Une année d'actualité.
Et en cette année, comme les années précédentes, il faut hélas revenir sur les violences entre Israéliens et Palestiniens. Mi-septembre, correspondance de Muriel Paradon.
Des Palestiniens manifestent et en appellent à Dieu lorsqu'un groupe de Juifs très religieux sort de l'esplanade des mosquées. Ils sont en colère car eux ne peuvent y accéder, coincés derrière une barrière de policiers israéliens. Abou Ali Chabané, la cinquantaine, dénonce une provocation.
Comme vous le voyez, nous les musulmans qui sommes les vrais propriétaires de l'esplanade des mosquées, nous n'avons pas le droit d'entrer alors que les touristes et les Juifs peuvent entrer. C'est injuste.
Un peu plus loin dans la vieille ville, des affrontements éclatent. Des pierres jonchent le sol. La police israélienne tire des grenades assourdissantes et des balles anti-émeutes. À l'abri d'une boutique, Oum Omar, 42 ans, appelle à défendre la mosquée Al-Aqsa.
La mosquée Al-Aqsa est en danger encore plus qu'avant. Et les Israéliens ne sont pas les seuls responsables. La communauté internationale et notamment les pays arabes ne font rien pour la défendre et libérer la Palestine. Ils devront en répondre devant Dieu.
Les Palestiniens craignent que les Israéliens brisent le statu quo sur l'esplanade des mosquées et autorisent les Juifs à venir y prier. Le troisième lieu saint de l'islam est réservé à la prière des musulmans.
La Syrie, maintenant, Yann Mince, c'est un fait majeur. L'implication au grand jour, cette fois de la Russie dans le conflit du côté de Bachar el-Assad, c'est clair. Moscou le 7 octobre, Muriel Pomponne.
Assis à sa table de travail, Vladimir Poutine reçoit son ministre de la Défense. À l'aide d'une carte déployée devant lui, Sergueï Shoigu détaille les actions de l'aviation russe. Elle aurait touché 112 sites en une semaine. Et pour la première fois, la Russie a utilisé sa marine. Sergueï Shoigu.
Ce matin, les navires de la mer Caspienne ont été sollicités. 4 croiseurs ont effectué 26 tirs de missiles de croisière sur 11 cibles. Toutes les cibles ont été détruites. Les civils n'ont pas été touchés. Les résultats des frappes confirment la haute efficacité des missiles de longue portée, presque 1500
km. Dans cette vidéo destinée à la propagande intérieure et extérieure, le président russe ne manque pas de féliciter les pilotes et les marins et de souligner la capacité de l'industrie de défense russe. Vladimir Poutine confirme aussi que l'aviation russe soutient une offensive militaire syrienne au sol.
En ce qui concerne la suite, comme nous l'avons déjà évoqué, j'espère que le travail sera synchronisé avec les actions de l'armée syrienne au sol. Nos forces spatiales et aériennes vont soutenir efficacement les offensives de l'armée syrienne.
Le président russe demande également à son ministre de la Défense de se coordonner avec les autres pays intervenant dans le ciel syrien en laissant entendre qu'un refus de leur part pourrait être la cause d'une absence de résultats.
Suite d'une année d'actualité, de cette seconde partie d'une année d'actualité en compagnie de Yann Mince du magazine Alternative Économique, la Syrie, il faut rappeler quelques chiffres, depuis 2011, 250 000 morts, 4 millions de réfugiés, un peu plus de 4 millions de réfugiés, plus de 6 millions de déplacés et l'implication maintenant de la Russie.
Oui, donc personnellement je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Beaucoup de gens pensent que grâce à la Russie on va pouvoir faire un front commun contre l'État islamique. Je pense que la Russie, ce n'est pas du tout sa priorité. Sa priorité, c'est de maintenir Bachar el-Assad en place. Et d'ailleurs on le voit dans les bombardements que la Russie a effectués depuis que ses avions se sont lancés dans le ciel syrien. Ces bombardements visent avant tout des mouvements hors État islamique, des mouvements que, dans un qualificatif très global, Vladimir Poutine qualifie de terroriste simplement parce qu'il s'oppose au régime de Bachar el-Assad, qui est l'allié de Moscou et l'allié de Téhéran. Donc effectivement, je pense que c'est une mauvaise nouvelle. Je ne crois que le régime de Bachar el-Assad était affaibli depuis le début de l'année. Et si la Russie est intervenue, c'est justement pour le maintenir en place aussi longtemps que possible, parce que c'est pour la Russie la garantie qu'elle continuera à avoir une influence au Proche-Orient. La Syrie est à peu près le dernier pays de la région où, pour l'instant en tout cas, la Russie a une influence et une présence navale à Tartous en Méditerranée, ce qui n'est pas indifférent pour les militaires russes, notamment la marine russe. Aujourd'hui, Vladimir Poutine le dit, il veut multiplier les points d'appui maritimes dans le monde pour la Russie et la Syrie s'en est un, n'a pas de raison de s'en priver.
Alors dans les relations entre Vladimir Poutine et Barack Obama, entre la Russie et les Américains, peut-on parler, vous le faites dans ce supplément de Quel Monde en 2016, de nouvelles guerres froides?
Non, je pense que on a mis un point d'interrogation. Justement, on a demandé à 3 experts européens, un expert polonais, un expert britannique et un expert autrichien qui travaille en Allemagne, de donner leur vision. Effectivement, c'est pas une vision forcément concordante d'ailleurs. Ils voient plutôt le sujet depuis la crise ukrainienne que depuis la crise syrienne, parce que c'est là, effectivement, dans le cas de l'Ukraine, qu'on peut parler de guerre froide. Alors, l'un des 3 auteurs, Richard Sakwa, parle de paix froide. Effectivement, ça me semble plus de petite paix froide, de petite guerre froide, selon. Mais oui, je crois pas qu'on en viendra aux mains, disons. En revanche, moi, je pense qu'il est impossible d'avoir une relation stable, équilibrée avec le régime de Vladimir Poutine. Et malheureusement, on a l'impression que ce régime est appelé à durer. Donc, je ne crois pas à une normalisation. Par ailleurs, évidemment, la crise syrienne et la crise ukrainienne n'ont pas du tout les mêmes priorités pour Poutine. L'Ukraine, pour les Russes, pour le régime russe en tout cas, c'est un pays qui devrait être vassal, dépendant, sous contrôle. Et l'occupation, même inavouée, d'une partie de l'Est de l'Ukraine par des troupes russes, c'est clairement une façon de saigner l'Ukraine, de l'empêcher d'être unie, de l'empêcher d'être souveraine.
Une année dans le monde.
Et nous allons reparler des réfugiés, Yann Mince. Plus d'un million d'entre eux sont arrivés en Europe cette année, en provenance notamment de Syrie et d'Irak. On en a déjà parlé samedi dernier. Et un pays a beaucoup fait parler de lui, car il a décidé d'en accueillir 800 000. C'est l'Allemagne, décision prise par Angela Merkel, d'ailleurs femme de l'année pour le magazine américain Time. Écoutez ce reportage à Munich, début septembre, de Pauline Curté.
C'est une scène qui est devenue régulière à Munich ces derniers jours. À chaque arrivée d'un nouveau groupe de réfugiés, à peine descendus du train, ils sont applaudis par des Munichois. Les enfants, eux, ont bien souvent droit à des friandises ou des jouets distribués par les badauds. Des bénévoles les accueillent ensuite avec boissons et nourriture. De quoi les rassurer après un voyage long et éprouvant, comme l'explique Aria, une réfugiée syrienne arrivée ce week-end à Munich.
It was very dangerous and very hard.
Le voyage était dangereux et très difficile. Les gens dormaient dans la rue ou dans des forêts. Il y avait des voleurs. Les gens en Hongrie étaient vraiment très mauvais.
Devant l'afflux de réfugiés durant le week-end, une bonne partie d'entre eux a tout de suite dû quitter Munich. Direction d'autres villes allemandes, dans des trains ou des bus affrétés pour l'occasion. La ville bavaroise avait d'ailleurs averti lundi matin, après les nombreuses arrivées du week-end, elle craignait de ne plus pouvoir accueillir dignement tous les réfugiés. Avec l'aide des autres États allemands, elle devrait, dans les jours à venir, être moins sous pression.
Terminons avec un message d'espoir, cette première partie de notre deuxième partie d'une année d'actualité envoyée par les États du monde rassemblés à Paris pour la COP21. La planète s'est donc engagée à ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement, même si le texte approuvé à Paris en décembre est contraignant. Reste à savoir si les engagements seront tenus. Reportage le 13 décembre d'Arim Lipold.
C'est fait. Après 13 jours de négociations intenses et 3 nuits blanches, les 196 délégations adoptent le premier accord universel sur le climat. Le représentant de Tuvalu, une petite île du Pacifique.
We concluded an agreement that will change the world.
Nous avons conclu un accord qui change le monde. Nous sommes convaincus que nous avons sauvé Tuvalu. Et ce faisant, nous avons sauvé le monde.
Thank you.
Pour le ministre indien de l'Environnement, Prakash Javadekar, il n'y a aucun doute, on se souviendra de ce 12 décembre 2015.
C'est un jour historique. Nous n'avons pas seulement adopté un accord, mais nous avons écrit une nouvelle page d'espoir pour les 7 milliards d'habitants de cette planète. Gandhi disait que nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos futures générations.
Une séance plénière chargée de discours solennels a commencé par celui de Laurent Fabius, très ému lorsqu'il présente le projet d'accord.
J'ai une pensée particulière, enfin, pour tous ceux, ministres, négociateurs, militants, qui auraient voulu être là, en cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour.
Laurent Fabius, dont l'engagement pour cet accord a été unanimement salué par les diplomates présents à la COP21.
Une année d'actualité en compagnie de Yann Mince. Je continue à saluer quelques auditeurs. Omar qui nous écoute en Italie et Issouf à Ouaigouya au Burkina Faso. L'émotion de Laurent Fabius est surprenante. Il a l'habitude de retenir ses émotions.
C'est un homme plutôt effectivement réservé habituellement. Même certains pourraient le qualifier d'un peu froid, d'un peu distant. C'est l'image qu'il avait. Alors probablement il y a deux éléments qui rondent. Il y a effectivement la solennité du moment. Je crois que la COP21 c'est... les sensations que c'était un tournant pour l'humanité. Je suis un peu réservé sur son application, mais en même temps, il faut pas bouder son plaisir. On a un accord universel sur une question centrale pour le devenir de l'humanité. Donc effectivement, faut pas bouder son plaisir. Après, il y a simplement aussi peut-être l'épuisement d'un homme qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup donné pour cette conférence depuis 2 ans et surtout depuis 1 an, qui s'est beaucoup investi. Moi, je suis très impressionné par les tours du monde que font un certain nombre de ministres des Affaires étrangères. Là, on parle de Lanfabius, mais on pourrait parler de Kerry ou du ministre russe. Ce sont des gens qui passent leur temps dans des avions, qui doivent être épuisés. Donc, je pense qu'au bout d'une négociation comme ça, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, probablement l'émotion et puis peut-être aussi la fatigue.
Alors Yann, Angela Merkel, bienfaitrice de l'humanité ?
En tout cas, Angela Merkel, c'est un personnage à qui on reproche, on parlait de la crise grecque la semaine dernière, on reproche une sorte d'application un peu moraliste de ses principes en politique. Là, je dirais qu'on pourrait plutôt la faciliter pour l'application aussi de l'éthique en politique. Elle a considéré que c'était le devoir.
C'est rare.
C'est rare, oui. Mmh. Alors, évidemment, il y a des esprits chagrins qui disent oui, mais si l'Allemagne veut accueillir autant de gens, c'est parce qu'elle a un problème démographique et que à terme, elle aura besoin effectivement d'un apport de population d'extérieur parce que les Allemands ont peu d'enfants. Et ça risque de continuer. Je crois qu'il ne faut pas non plus être cynique tout le temps, même si on reproche ça souvent aux journalistes. Surtout pas au début d'année. Et je crois que c'est un pari important, un risque politique qu'a pris Angela Merkel, et on l'a vu après, on l'a vu depuis cette proclamation où effectivement elle a suspendu l'accord de Dublin pour l'Allemagne, donc a permis aux réfugiés de venir. C'est qu'aujourd'hui, on voit effectivement qu'elle est très critiquée dans une partie de son opinion publique. On voit qu'il y a des violences contre les réfugiés, alors qu'à Munich, le reportage le montrait, les gens accueillaient les enfants avec des bonbons. Quelques semaines, quelques mois après, ça risque d'être différent. C'est pour Angela Merkel un risque, mais elle s'y tient. Elle l'a dit devant son congrès, devant la CSU et surtout devant la CSU, partie la branche bavaroise qui est encore plus conservatrice que son propre parti. Elle maintient sa ligne. Ça ne veut pas dire que les frontières vont être ouvertes ad vitam aeternam. L'Allemagne, comme la Suède, ont décidé que là, elles avaient fait ce qu'elles pouvaient, mais qu'elles ne pouvaient pas faire plus. En regard de ça, ce que font les autres pays, y compris la France, apparaît extrêmement modeste. Mais il faut noter un point, les réfugiés ne veulent pas venir en France. Ils veulent aller en Allemagne ou en Suède.
Ou en Angleterre.
Ou en Angleterre pour une partie d'entre eux, mais les Syriens, c'est beaucoup l'Allemagne et la Suède.
Alors terminons avec une bonne nouvelle pour conclure cette revue internationale de l'année, la Colombie. Prometteuse. Un accord qui se profile, un accord sérieux entre le gouvernement et les FARC.
Et les FARC, donc la plus importante des deux guérillas, la plus organisée, la plus déterminée, donc sachant qu'il y en a une autre, s'appelle l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, qui elle, à ma connaissance, n'est pas dans le même état de négociation avec le gouvernement, mais effectivement, ce serait une bonne nouvelle. Après, il faut voir ce qu'il y a dans l'accord, il faut voir si ça consiste à geler le front et à permettre aux FARC de gérer un territoire de fait, ou si on a une vraie intégration nationale issue de cet accord. Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Évidemment, une guerre qui cesse, et une guerre aussi longue dans un pays qui a connu... C'est un des rares pays du monde qui a un épisode de son histoire qui s'appelle la violence. Dans les années 40, la violence. Il n'y a pas beaucoup de pays du monde qui ont ça, heureusement.
Et pourtant. Yann Mince, on va quitter 2015 pour se retrouver en 2016 et quelques informations de ces dernières heures. Et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Orient Hebdo, Eric.
Merci pour toutes ces informations. Retour à notre évocation de la seconde moitié de l'année dernière dans un numéro spécial d'une semaine d'actualité.
Pierre-Édouard Deldic.
Et nous sommes toujours en compagnie de Yann Mins du magazine Alternative Économique qui nous propose un supplément Quel Monde en 2016. On espère qu'il sera meilleur, plus pacifié que celui de 2015, non ?
Espérons-le, mais je ne parierais pas forcément très très lourd dans certains cas, dans certaines régions du monde en tout cas.
Avec toujours les mêmes dossiers, terrorisme, mais aussi quelques bonnes nouvelles. On l'a souligné en Amérique latine par exemple.
Bien sûr, oui, bien sûr. La reprise des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba ou le processus de paix en Colombie sont effectivement des choses dont il faut se réjouir. Il ne faut pas bouder son plaisir quand on a des bonnes nouvelles, surtout pas.
Surtout qu'on est dans un monde sans boussole, comme le précise dans un éditorial Alain Dikoff au début de ce supplément.
Sans boussole et sans pilote, et je crois que c'est peut-être plus l'absence de pilote encore que de boussole qui nous perturbe. Avant, on avait l'impression qu'il y avait un ou deux pilotes dans l'avion. Du temps de la guerre froide, c'était plutôt un pilote et un copilote ou deux pilotes qui alternaient la route. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de puissance dominante. Peut-être que c'est mieux, peut-être que c'est bien qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit censé être en charge de tous les problèmes du monde, parce que je pense que c'est au-dessus des capacités d'un seul pays. Mais du coup, il n'y a pas de règles non plus. Et c'est peut-être l'absence de règles et de respect de ces règles et de mécanismes pour faire respecter ces règles qui est un vrai problème.
Et vous nous l'expliquez très bien dans 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman, un livre qui sera publié bientôt, le 7 janvier.
Le 7 janvier, absolument, oui.
Chez vos éditions les Petits Matins, un décryptage de ce monde de fous, de brutes.
En tout cas, de ce qui concerne, disons, toutes les régions du monde, y compris évidemment la France et y compris l'Europe, où on a aujourd'hui une forte présence musulmane, avec un impact sur la politique, qui n'est pas forcément un impact qui arrive directement du religieux, mais en tout cas qui emprunte le vocabulaire du religieux, comme on le voit dans certains événements tragiques. Oui.
Dans quelques minutes, Yann, nous partirons pour l'Afrique, mais tout de suite, comme la semaine dernière, nous allons commencer cette seconde partie avec la France. La France touchée en plein cœur par le terrorisme, encore le vendredi 13 novembre. Nous n'allons pas nous appesantir, les faits parlent d'eux-mêmes. Kamikaze au stade de Saint-Denis, attaque au Bataclan, attaque de terrasse. Écoutez quand même ce témoignage diffusé sur la chaîne de télévision Itélé.
J'ai entendu des coups de feu il y a de ça environ une demi-heure. Deux hommes se sont extirpés d'une voiture, ont tiré, j'ai entendu des coups de feu. Donc je vois des hommes tirent dans le restaurant qui se trouve non loin de chez moi. Ils tirent sans viser quelqu'un précisément. Ils ne sont pas cagoulés, ce sont deux individus qui ont des kalachnikovs, qui ont des armes de poing. L'un d'eux se dirige vers un des occupants qui est assis en terrasse et pointe l'arme sur sa tempe. C'est une situation qui est tout à fait inédite. C'est quelque chose de complètement dingue. Les hommes sont restés au moins deux minutes et ils avaient un sang-froid incroyable. Ils ont pris leur voiture, ont démarré en tronc dans la rue et ont remonté la rue de la Fontaine-au-Roi. Immédiatement, des dizaines et des dizaines de passants se sont rués sur les lieux du drame pour porter secours aux premières victimes. Et les forces de police sont arrivées en masse.
Attaque meurtrière, donc 130 morts, de nombreux blessés graves qui porteront des séquelles toute leur vie. Et intervention le mercredi suivant de la police à Saint-Denis dans la banlieue de Paris, Simon Rosé.
5000 munitions tirées par 110 policiers mobilisés durant 7 heures. Des chiffres qui rendent compte de l'ampleur de l'opération policière menée ce mercredi matin à Saint-Denis avec une cible identifiée, Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris. Selon un renseignement fourni lundi aux enquêteurs, il se trouverait en France. Face aux hommes du RAID et de la BRI, une opposition rompue au combat, fusil d'assaut de type Kalachnikov et explosif du jamais vu de mémoire de policiers. Et pour le procureur de Paris, François Molin, ce commando aurait pu passer à l'acte. Mais à 11h20, lorsque l'assaut est officiellement terminé, alors que 5 policiers sont légèrement blessés, il ne reste plus rien de ce commando. Au moins 2 de ses membres sont morts, 8 autres sont en garde à vue. Mais parmi ces dernières, nulle trace d'Abdelhamid Abaoud. C'est alors la police judiciaire et notamment la police scientifique qui a pris le relais des groupes d'intervention pour glaner le maximum d'informations dans l'appartement qui est désormais une ruine et surtout identifier les corps des terroristes présumé pour leur donner un nom.
Abaoud, qui a été finalement identifié et tué dans cet assaut suite de cette seconde partie d'une année d'actualité. Toujours le terrorisme, Yann.
Oui, à cette différence près par rapport à ce dont on parlait la semaine dernière dans l'émission, c'est que les attentats de janvier 2015 à Paris visaient des catégories spécifiques de la population, dans un cas des dessinateurs, dans l'autre des membres de la communauté juive, alors que là on a l'impression, je ne sais pas si c'est exact, mais en tout cas on a l'impression que c'est n'importe qui, le premier venu, que ça peut être tout un chacun qui peut mourir dans ces attentats. Alors les attentats ont eu lieu dans des zones bien précises, dans le 11e arrondissement, c'est là où il y a eu le plus de victimes. Mais il faut bien voir que si les attentats de Saint-Denis avaient réussi, et heureusement ils ont pratiquement échoué, presque, la sociologie des victimes aurait probablement été assez différente, parce que voilà, les spectateurs du Bataclan, les spectateurs du Stade de France, c'est pas forcément les mêmes personnes, y compris dans leurs origines géographiques d'ailleurs. Mais en tout cas, ce sont des attentats qui, d'abord, ont fait beaucoup plus de victimes et surtout, effectivement, donnent l'impression que tout un chacun est en danger aujourd'hui à Paris.
Avec une base logistique pour ces terroristes, Bruxelles.
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les chiffres sur l'origine des djihadistes qui vont se battre en Syrie. D'abord, premier point, le plus grand nombre de djihadistes qui vont se battre en Syrie ou en Irak ne viennent pas d'Europe, mais viennent bien du monde du Proche-Orient, du monde arabo-musulman au sens large. Deuxièmement, quand on regarde effectivement au sein des Européens qui vont se battre, les Français sont les plus nombreux en valeur absolue, mais par habitant, ce sont les Belges. Ce qui veut dire qu'on a effectivement un foyer particulièrement actif de jeunes radicalisés en Belgique et qui ont pris la route de la Syrie. J'ajoute que le deuxième pays après la Belgique, c'est un pays auquel on ne pense pas forcément, mais par tête d'habitants, c'est le Danemark, qui est le deuxième pays qui envoie le plus de djihadistes, alors qu'on vante toujours les charmes de la société danoise, oui, l'intégration, la flexi-sécurité, etc. Il faut croire que ça ne suffit pas à prévenir la dérive. Je crois effectivement que ce ne sont pas seulement des dérives dues à la sociologie, mais à d'autres phénomènes.
Alors je salue cette fois Liu qui habite au Sénégal et qui nous écoute au Sénégal, et Moussa Amro Ibrahim qui nous écoute lui à N'Djamena au Tchad. Lui dit que les guerres contre le terrorisme, ça ne sert à rien, il n'y a que la diplomatie qui compte, et il salue les communautés nomades en général et arabes en particulier. La guerre contre le terrorisme, c'est quelque chose qui...
Ben, c'est un...
Qui vous intéresse, Yann? Qui vous semble utile?
Je pense que le terme guerre est inapproprié parce que dans la tête de beaucoup de gens, la guerre, c'est des moyens conventionnels. C'est des avions, des armées, etc. Effectivement, le combat contre le terrorisme, qui me paraît un terme plus approprié, ne peut pas être gagné par des moyens conventionnels uniquement. Parce que le terrorisme, d'abord, c'est une méthode, le terrorisme, c'est pas un but en soi, c'est une méthode. Et d'autre part, même si on prend les mouvements, on va dire, uniquement les mouvements djihadistes, ces mouvements-là prospèrent sur des crises politiques. C'est pas par hasard qu'on a des mouvements djihadistes puissants en Syrie, en Irak, en Libye. Il y a des raisons à ça. Ça veut dire qu'il y a des problèmes politiques non résolus. Et la résolution de ces problèmes politiques-là, elle ne peut pas être faite uniquement par des moyens militaires. On pourra bombarder la Syrie tant qu'on voudra. Ça ne réconciliera pas les Syriens.
Alors je dois ajouter un mot de politique quand même. Il y a eu des élections régionales en décembre en France avec une progression à nouveau du Front National.
Oui, une progression très importante au premier tour. Alors ça ne leur a pas assuré de succès au deuxième tour parce que la participation a été plus importante. La participation a d'ailleurs profité aussi au Front National, mais elle a permis que ce ne soit pas lui qui remporte des régions alors qu'on était parti pour qu'il emporte plusieurs régions à l'issue du premier tour. Ça veut dire qu'il y a une vraie implantation durable, une vraie conviction d'une partie des Français que le Front National, ça mérite d'être tenté. C'est-à-dire, c'est pas seulement un repoussoir, c'est pas seulement quelque chose qu'on agite pour faire peur aux autres partis et les obliger à se secouer. Pendant longtemps, on avait cette idée-là, les gens votaient Front National simplement pour secouer les autres. Là, on a l'impression qu'il y a une partie des Français qui sont prêts à dire « essayons le Front National parce qu'on a essayé les autres et ça ne marche pas ». Ça serait légitime si le Front National était un parti comme les autres avec des objectifs républicains, mais à mon sens, ça n'est pas le cas. Le Front National, c'est un vrai danger.
Une année d'actualité.
Et nous partons pour l'Afrique maintenant, Yann. 2015, année de tension au Burundi. On en a déjà dit un mot samedi dernier. Coup d'État, tension après l'élection présidentielle, tensions ethniques et situation humanitaire désastreuse, comme l'ont constaté à la mi-décembre deux envoyés spéciaux de l'ONU, correspondance de New York, Marie Bourreau.
C'est un tableau dramatique qu'ont dépeint les deux responsables onusiens de retour d'un voyage au Burundi. 700 000 personnes manquent de nourriture, soit 36% des Burundais. 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais surtout, un peu plus de 29 millions d'euros manquent toujours aux caisses des agences humanitaires sur le terrain.
S'il n'y a aucune aide au développement ou aide humanitaire, les ressources actuelles seront insuffisantes pour couvrir le coût de services très basiques pour la population.
Conséquence, les services de santé ont rencontré leur première rupture de stock de médicaments et les prises en charge médicales gratuites des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes se sont arrêtées. À New York, l'ONU est de plus en plus pointée du doigt pour son incapacité à résoudre la crise, un constat que Jung Ging, le directeur des opérations humanitaires, refuse de faire.
Ce que fait l'ONU sur le plan politique, ça n'est pas notre affaire. Tout ce qui nous préoccupe, c'est de nous assurer que nous, les agences humanitaires de l'ONU avec les ONG partenaires, nous faisons notre travail.
Mais les voix s'élèvent pour faire plus et notamment engager une opération de maintien de la paix sur laquelle le Conseil de sécurité a été jusqu'à présent incapable de s'entendre.
L'Afrique a elle aussi subi le terrorisme en 2015, victime des djihadistes de Boko Haram ou de l'organisation de l'État islamique. L'hôtel Radisson Blue de Bamako, théâtre le 20 novembre d'une attaque djihadiste ayant fait 20 morts, dont 14 étrangers, a été particulièrement remarqué le 20 novembre. Écoutez ce que disait alors notre envoyé spécial David Bachet lors de l'assaut de la police.
Ce que je peux vous dire, c'est que l'assaut est terminé. Au moins deux assaillants auraient été tués au cours de cet assaut mené donc par les forces de sécurité maliennes, police, gendarmerie, forces spéciales, soutenues par les éléments des forces spéciales françaises. En ce moment, l'hôtel est toujours vérifié, étage par étage, chambre par chambre. Au moins une centaine de personnes ont pu être évacuées, 125 ont été prises en charge dans un centre sportif situé dans le quartier, et 7 autres de sources médicales sont en ce moment soignées à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, dont une dans un état grave.
Intervention donc à chaud de David Bachet lors de l'assaut contre le commando qui avait pris en otage et qui a tué 20 morts, dont 14 étrangers, le 20 novembre dernier à l'hôtel Radisson Blue de Bamako. Je salue Hassan à Tunis qui se demande, puisqu'on a parlé du Burundi, ce que fait la communauté internationale, avec les guillemets qui conviennent, avec le Burundi. Je salue également Tahirou à Mopti et Bakari à Bamako. Alors on va commencer par le Burundi, on en a déjà dit un mot, vous en avez déjà dit un mot la semaine dernière, Yann, mais là il y a en plus de la crise politique une situation humanitaire calamiteuse.
D'autant plus injuste et illégitime que quand on entend les sommes qui sont en cause, 29 millions d'euros, on peut penser alors que du coup la communauté internationale et notamment les pays les plus riches peuvent trouver ça. Je pense qu'on parlait de la semaine dernière de la guerre du Yémen. Voilà une guerre dans laquelle l'Arabie Saoudite dépense beaucoup d'argent. Je pense que l'équivalent de quelques-unes de ces bombes pourrait résoudre une partie du problème humanitaire du Burundi sans trop de difficultés. Je serais préservé sur la capacité de la présumée communauté internationale à résoudre les problèmes politiques du Burundi. Je crois qu'une intervention militaire, que ce soit une intervention de l'Union africaine qui a été refusée d'ailleurs par le Burundi, ou en tout cas accueillie avec beaucoup de réserves, ou une intervention internationale, ça peut peut-être geler le conflit, mais il n'y a que les Burundais qui peuvent se réconcilier. Et malheureusement, on entend depuis plusieurs semaines des déclarations extrêmement inquiétantes de responsables burundais qui utilisent un vocabulaire comme le terme « travailler » qui avait été utilisé pendant le génocide rwandais et qui veut dire « exterminer ». Et ça, c'est extrêmement inquiétant. On avait un conflit politique que le pouvoir burundais est en train délibérément d'ethniciser en désignant les Tutsis comme l'ennemi. Et si on voit revenir des termes, on peut avoir non seulement des massacres de masse au Burundi, mais en plus une guerre avec le Rwanda, parce que je pense que le régime Kagame ne restera pas sans intervenir s'il y a des massacres de Tutsis en grande quantité, et aussi de Hutu au Burundi.
Terrorisme encore, c'est le fil rouge de nos émissions rétrospectives 2015.
Hélas.
Yann, hélas. À Bamako, le 20 novembre.
Oui, alors à Bamako, cet attentat contre l'hôtel Radisson Blue, du coup, il n'a pas été revendiqué par l'État islamique, mais j'allais dire par la branche concurrente, par le réseau concurrent, puisque c'est l'organisation de Mokhtar Belmokhtar, donc qui est affiliée à Al-Qaïda, en tout cas qui se dit toujours fidèle à Al-Qaïda, qui a commis cette attaque. Ça montre que effectivement, l'intervention française de 2013, franco-tchadienne plutôt, de 2013, oui, qui a réussi à chasser les djihadistes des villes de Kidal, Tombouctou et Gao, n'a pas réussi en revanche, contrairement à ce qui était l'objectif, à éradiquer le terrorisme du Mali. Aujourd'hui, les organisations comme Al-Morabitoun ou d'autres, le Front Libération du Massina, comme l'organisation du Sud, ont les moyens de frapper aujourd'hui, et d'éventuellement d'étendre leurs actions à des pays voisins, ce qui serait extrêmement inquiétant. C'est un phénomène qu'on voit chez les djihadistes de façon récurrente. S'ils essayent de prendre le contrôle d'un territoire et qu'ils sont obligés de l'abandonner, souvent ils étendent le champ. On le voit avec Al-Shabaab, qui est passé de la Somalie au Kenya, et peut-être demain en Tanzanie. Et on le voit avec Boko Haram, dont on parlait avant, qui maintenant est actif au Niger, au Cameroun, au Tchad. Et on risque de le voir avec Al-Mourabitoun s'ils essaient d'étendre au-delà du Mali, par exemple, vers la Côte d'Ivoire ou d'autres pays.
Suite d'une année d'actualité en Afrique, Yann, et la démocratie en action malgré tout, d'abord en Guinée avec la réélection d'Alpha Condé malgré des manifestations de protestation. Reportage de notre correspondant Mokhtar Ba.
Déclare Monsieur Alpha Condé, ayant obtenu 57,84% élu président de la République pour la mandature allant du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020.
C'est sans surprise que la Cour constitutionnelle a déclaré hier soir le président sortant et candidat à sa propre succession, Alpha Condé, vainqueur du scrutin présidentiel du 11 octobre dernier. Réaction de Kassori Fofana, directeur de campagne du candidat vainqueur.
Il n'y a pas de surprise parce que pour ceux qui ont suivi ce scrutin, depuis le début jusqu'au dépouillement, jusqu'à la centralisation, il n'y a pas de surprise, les deux étaient déjà jetés. Mon candidat était le meilleur des candidats. Le peuple de Guinée a bien voté et la confirmation de ce soir n'est pas une surprise pour moi.
Si l'opposition aussi n'est pas surprise, elle fait par contre un violent réquisitoire contre le processus. Fode Ousou Fofana, vice-président de l'UFDG, le principal parti d'opposition.
Nous disons, nous, en ce qui nous concerne en tant que UFDG, cette élection ne nous concerne pas du tout. Nous ne reconnaîtrons jamais les résultats de cette mascarade d'élection. Ce que nous ressentons, c'est que la démocratie a reculé dans notre pays. C'est dommage pour la Guinée, parce que nous pouvons dire ici, sans risque de se tromper, que c'est la plus mauvaise élection organisée pendant ces 50 dernières années. La Cour constitutionnelle ne fait qu'obéir aux injonctions du candidat Michel Alpha Condé.
Élection présidentielle aussi en Côte d'Ivoire et la réélection attendue d'Alassane Ouattara que vous avez pu écouter d'ailleurs sur notre antenne.
Quand on a bien géré, on bénéficie toujours d'une prime. Évidemment, quand on a mal géré, ce n'est pas le cas. Donc nous avons bien géré la Côte d'Ivoire, nous avons une prime, c'est vrai, mais le taux représente la satisfaction des Ivoiriens. Vous savez, la paix est importante dans ce pays. Notre premier président nous a toujours dit que la paix était le premier critère du développement. Et j'ai ramené la paix en Côte d'Ivoire. J'ai ramené la sécurité aux Ivoiriens. Et nous avons tenté également de renforcer la démocratie et les institutions. Nous avons fait des projets partout. Je n'ai pas essayé de trier les régions qui m'ont soutenu et celles qui ne m'ont pas soutenu, et ainsi de suite. Donc nous continuerons. Je veux continuer de faire profiter le plus grand nombre d'Ivoiriens, donc des bienfaits de la croissance de notre pays.
Une année en Afrique.
Une année d'actualité au Burkina Faso, à la mi-septembre, le 16 exactement, une tentative de coup d'État. Mais non seulement le pays est sorti de la crise, mais il a organisé une élection présidentielle début décembre. Vainqueur dès le premier tour avec un peu plus de 53% des voix, Marc-Christian Kaboré. Écoutons un extrait de son premier discours.
C'est le lieu pour moi d'adresser nos chaleureuses félicitations aux organes de la transition et à leurs responsables pour le chemin parcouru. Aux jeunes, aux femmes et aux anciens, je tiens à réitérer ma détermination à mettre en œuvre mon programme pour ouvrir les opportunités d'un lendemain meilleur. Enfin, à nos pays voisins, à tous nos partenaires de coopération, je renouvelle mon engagement à continuer à honorer la signature et la parole du Burkina Faso et à œuvrer avec eux au raffermissement des excellentes relations entre nos peuples. Vive le Burkina Faso, vive le peuple burkinabé, je vous remercie.
« Une année d'actualité et des votes, la démocratie en action malgré tout. Yann, d'abord au Burkina Faso.
Oui, le Burkina Faso a eu chaud, si je puis dire, parce que la tentative de putsch, elle n'avait pas été défaite par une partie de l'armée contre une autre partie, puisque ce sont les militaires, je dirais, hors garde présidentielle, notamment ceux de province, qui sont montés à la capitale pour mater la garde présidentielle burkinabé. Peut-être qu'effectivement, ça aurait tourné différemment. Bon, maintenant, on a une élection, la transition est terminée, des institutions normales vont pouvoir se mettre en place. Ça résout pas le problème des tensions qui existent, notamment avec la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. On sait bien que le pouvoir du président Compaoré était très impliqué dans la crise ivoirienne. Aujourd'hui, Compaoré est réfugié à l'extérieur. La question, c'est de savoir s'il va être livré ou pas, maintenant qu'il est recherché par son pays pour le meurtre de Sankara. Les relations vont être compliquées dans ce qu'on appelle la sous-région en Afrique. Il va falloir trouver une façon de pacifier tout ça, de retrouver des relations cordial, normal. Le président Ouattara se faisait sa propre éloge de son mandat. Ouais,
toujours mieux servi que par soi-même.
Oui, ça, c'est de bonne guerre dans une période électorale. En même temps, il reste des blessures qui n'ont pas été cicatrisées en Côte d'Ivoire elle-même. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'impression d'avoir été vaincus, d'avoir été battus, et dont les souffrances n'ont pas toujours été reconnues. Et je pense qu'effectivement, les débats qui ont eu lieu autour de la personne de Guillaume Soro, qui était quand même l'un des acteurs principaux de la rébellion dans les années 2000, vont continuer probablement tout au long de cette année 2016.
Alors après avoir salué Moustapha qui nous écoute à Lomé, au Togo, qui est un fan de l'émission, il faut quand même insister aussi sur cette tendance qu'ont certains chefs d'État africains à s'accrocher au pouvoir, à vouloir rester au pouvoir.
Ah ben, certains s'accrochent même très longtemps, puisque le récent référendum au Rwanda va permettre au président Kagame de faire encore 3 mandats, je crois, de rester jusqu'en 2030 ou 2034, je ne sais plus très bien. Donc effectivement, là, on a alors un référendum à 98%. Moi, j'ai du mal à croire à la... Je veux bien croire qu'un certain nombre de Rwandais, soit enthousiasmé par le bilan du président Kagame. 98% qui souhaitent qu'il reste longtemps, ça me paraît surprenant, disons. Ouais. On a la même chose au Congo-Brazzaville, où le président Sassou n'a pas l'intention visiblement de quitter le pouvoir tout de suite. Et on a surtout l'hypothèque qui pèse sur savoir ce qui va passer en République démocratique du Congo, où effectivement il y a une tentation, sinon de modifier la Constitution, du moins de trouver des façons de prolonger son mandat chez le président Kabila. Je pense que c'est un jeu extrêmement dangereux, surtout dans des pays, je pense à l'RDC en particulier, où il reste beaucoup de gens en armes et donc des capacités de déstabilisation encore très importantes.
Merci Yann Mince. Donc je rappelle que vous allez publier bientôt, dans quelques jours, 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Vous reviendrez donc en parler dans cette émission.
Très volontiers.
Une semaine d'actualité dans le courant du mois de janvier. Et je signale aussi la parution à la fois par Alternative Internationale pour les abonnés et par Alternative Économique d'un hors-série qui s'intitule « Quel monde en 2016 ?»
Absolument.
Merci Yann Mince et je vous souhaite donc encore une fois une bonne année.
Et très bonne année à tous les auditeurs, bien entendu.
Une année d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Nos remerciements à la Sonothèque de RFI, Eugénie Ducré, Laurence Sarniguet, Françoise Bourgault et Françoise Delignon. Retour donc à une semaine d'actualité samedi prochain. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Notre invité sera le grand historien de la littérature Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. Avec lui, nous parlerons de Barthes, mais aussi de Baudelaire et de Montaigne, pour bien commencer l'année, en quelque sorte. Demain dimanche, 16h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal, mais on ne peut conclure cette rétrospective, c'est une tradition, sans poser la question, et je me retourne vers vous Yann Mince, mais cette fois c'est aux critiques musicales que je m'adresse, critique de jazz au quotidien La Croix. Quel est le CD de jazz marquant de l'année 2015?
Bah pour moi, c'est le CD, d'un saxophoniste français qui s'appelle Sylvain Rifflet. J'avais déjà eu l'occasion, d'ailleurs, à ce micro, dans cette même émission, il y a quelques années, de parler d'un album. À l'époque, Sylvain Rifflet agissait, si je puis dire, au sein d'un groupe qui s'appelait Rockin' Chair, qui malheureusement a disparu. Il a reformé d'autres groupes depuis, dont celui-ci. L'album s'appelle Mechanics, et je trouve qu'il y a chez Sylvain Rifflet ce qui fait la patte des musiciens. C'est un vrai son, une sonorité à lui, quelque chose qu'on n'a pas l'impression d'avoir déjà entendu, une vraie façon d'arranger, de mixer les couleurs, de mixer les sons. Et je pense que c'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup d'avenir et qui a su trouver de bons complices pour faire cet album qui s'appelle Mechanics, qui est paru sur le label Jazz Village.
On va l'écouter tout de suite. Bonne année.
auteur de L'âge des lettres, un hommage à son ami Roland Barthes, Antoine Comte.